Iris Kaltenbach, bonjour.
Bonjour.
Votre premier long métrage, Le Ravissement, est montré à la Semaine de la Critique, au Festival de Cannes. C'est l'histoire de Lydia, une sage-femme qui adore son métier, mais qui s'enferme dans un mensonge. Elle va faire croire à Amro, une conquête d'un soir, un garçon qu'elle a aimé puis qui l'a quitté, que le bébé de sa meilleure amie est en fait l'enfant qu'ils ont eu ensemble. C'est une histoire. Comment dire, une histoire très forte et très belle. Le hasard joue un rôle très important dans votre film, ce qui contribue à le rendre très romanesque. Parce que c'est l'histoire d'une rencontre, puis d'une séparation, puis de retrouvailles, et enfin d'un mensonge aux conséquences dramatiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est née cette histoire, cette idée, et la manière dont vous l'avez, enfin on en parlera plus tard, de la mise en scène, mais décidé de l'écrire et de la filmer?
Alors, je suis partie d'un fait divers qui racontait l'histoire de cette jeune femme qui s'enferme dans ce mensonge et qui, en fait, fait croire à un homme qu'elle est la mère de l'enfant de sa meilleure amie. Et en fait, ce fait divers m'avait beaucoup touchée parce qu'il me semblait soulever cette question de l'amitié entre ces deux femmes qui m'intéressait beaucoup. Et en même temps de la question du faux-semblant dans les relations de séduction et plus tard d'amour. Et en fait, effectivement, ce que vous dites sur le hasard est très juste, c'est que souvent au cinéma, on essaye d'éviter les hasards dans les scénarios. Je suis très partisane parfois d'assumer les hasards comme dans la vie parce que, déjà, il y a des cinémas qui l'utilisent beaucoup et que j'aime beaucoup. Je pense par exemple à un film comme Another Woman de Woody Allen ou comme au cinéma d'Amaguchi où il y a beaucoup de hasards dans les rencontres amoureuse, etc. Et j'avais l'impression que ça reflète quelque chose de la vie, comme si dans les destins tragiques, il y avait souvent l'idée d'un hasard qui va précipiter un destin.
Le titre est très beau parce qu'il est polysémique. Le ravissement, c'est à la fois, bien entendu, l'idée d'enlèvement, de kidnapping, mais c'est le ravissement, c'est aussi quasiment la forme d'extase, de plaisir ou de révélation que va vivre Lydia, puisque finalement, ce mensonge va avoir des conséquences dramatiques, mais va à un moment donné le révéler à elle-même.
Ce qui me plaisait beaucoup, c'était effectivement la connotation aussi, l'idée de l'extase et l'idée d'être cette idée d'être ravie à soi-même, c'est-à-dire à un moment dans une rencontre, quand on tout d'un coup on ne sait plus très bien qui on est, ou en tout cas on est tenté de pour plaire à l'autre de se perdre un peu dans le regard de l'autre. Et pour moi, c'est un film qui parle aussi beaucoup de ça dans la rencontre avec Milos et qui, tout d'un coup, cette jeune femme, elle va avoir un regard qui est posé sur elle et qui est différent tout d'un coup parce qu'elle porte cet enfant dans les bras. Et je voulais beaucoup jouer avec ça et avec cette idée de l'image, en quelque sorte, de la maternité, de toute la mythologie qui l'entoure. Et voilà. Et du coup, la connotation presque religieuse du ravissement m'intéressait beaucoup.
Il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans le film aussi, c'est dans la manière dont vous racontez cette histoire. C'est l'histoire d'un vrai amour, mais qui va naître d'un mensonge. Dans comment du faux peut jaillir le vrai, en tout cas le sincère. Et j'aimerais savoir pourquoi vous avez eu cette idée de faire du jeune homme le narrateur du film, finalement.
Ça a été un vrai débat dans ma tête. En fait, dès le départ, je savais que je voulais qu'il y ait un narrateur ou une narratrice à cette histoire. Et je savais que je voulais pas que ce soit Lydia qui parle d'elle-même. Parce que pour moi, en fait, ce personnage était un mystère. C'est-à-dire, dès le départ, quand je suis partie du fait divers, dont je me suis beaucoup éloignée en l'écrivant, il y avait vraiment ce questionnement sur qui est cette jeune femme. Et donc, j'avais envie que quelqu'un épouse au fond presque mon point de vue, c'est-à-dire l'idée d'un questionnement plus qu'apporter des réponses, en tout cas. Et en fait, ce qui m'intéressait dans le point de vue et dans le récit de Milos, c'est l'idée qu'il y a toujours dans ces histoires cette position assez ambiguë et assez compliquée de cet homme qui à la fois est dupé, en quelque sorte, et qui en même temps n'a rien vu. Et donc je voulais qu'il ait une double voix, c'est-à-dire qu'on puisse avec l'image suivre le présent de l'action, etc. Et en même temps que le personnage ait fait un chemin entre ce qu'on vit dans l'image et cette voix qui vient plus tard, où il s'interroge sur finalement quelle a été sa place réelle dans cette histoire et quelle a été presque au fond sa complicité dans cette histoire, même si c'est une complicité inconsciente. Voilà. Et ça, je trouvais que c'était très important pour ce personnage. Et finalement, ce double statut de victime et de complice m'intéressait beaucoup. Et c'est pour ça que je lui ai donné la parole comme narrateur.
Bah, c'est vrai que quand on est dupé, comme vous dites, il y a une part inconsciente que la pour pouvoir être dupé, il faut accepter de l'être. En tout cas, il faut, ouais. Quand on ment à quelqu'un, il faut que l'autre accepte le mensonge.
Quoi. Tout à fait, exactement. Et même dans cette rencontre, pour moi, il y a vraiment, je reviens à cette idée du regard. C'est-à-dire qu'il y a un quiproquo, mais il y a aussi lui qui pose un regard sur elle et elle s'en empare. Et ça, c'était hyper important pour moi.
Le film est beau aussi par la manière dont il explore le féminin. Le film, c'est une exploration du féminin. Alors, comme vous l'avez dit, de l'amitié féminine, qui est un sujet très, très important, mais qui est rarement traité au cinéma ou ailleurs même, puisque c'est quand même l'histoire d'une femme qui va enlever l'enfant de sa meilleure amie sans qu'on soit sur le registre de la jalousie ou de la rivalité. D'une part, vous ne stigmatisez pas cette jeune femme pour le crime qu'elle commet, le délit qu'elle commet, mais elle ne le fait pas contre son amie, jamais.
Non, même moi je dirais qu'elle le fait presque. Pour moi, c'est une jeune femme qui ne ferait jamais ça. C'est pas du tout le cas.
Une inconnue.
Voilà, elle ne ferait jamais ça à une inconnue. C'est presque un acte d'amour chez elle. Ouais. C'est-à-dire, il y a vraiment l'idée d'une passion amicale et qui se délite ou qui, en tout cas, l'arrivée de cet enfant vient provoquer quelque chose dans cette amitié. Et pour moi, c'est presque l'enfant est aussi une prolongation de son amie. Donc
elle le fait pour rester avec elle, en fait.
Oui, pour moi, il y a quelque chose elle. Vraiment de l'envie de partager cet enfant avec elle et de rester dans la vie de son amie. Et ça, c'était très important pour moi que ça ne devienne pas une histoire justement de rivalité ou de jalousie comme on pourrait en avoir l'idée un peu cliché, quoi.
Vous avez expliqué un petit peu d'où venait cette histoire. Je pense qu'elle vient aussi du fait, peut-être, que vos parents étaient psychanalystes et que vous avez fait des études de droit.
Ouais.
Donc, c'est tout à lié. Et pourtant, le film n'est jamais, je dirais, un film dossier, enfin, un film à thèse. Il y a une forme cinématographique très, très particulière. On a parlé donc de ce flashback, de cette voix off. Comment est née la forme du film? Je trouve que le film est très, très élégant, très romanesque, on l'a dit, mais même au niveau de la mise en scène, il y a un souci formel qui est assez remarquable.
Ben merci. Je pense que mon plus grand souci dans la mise en scène, c'était vraiment comment partir du réel et en même temps toujours m'autoriser à aller vers une forme de romanesque. Et du coup, c'est passé par plein de choses. C'est passé par cette voix off, évidemment, qui aide ça. C'est passé par la façon de filmer, c'est-à-dire c'est un film qui est assez coloré, qui est assez où l'image, on a beaucoup cherché à travailler une matière dans l'image. On ne pouvait pas le filmer en pellicule parce qu'on n'avait pas les moyens, mais en tout cas, il y avait vraiment cette envie de presque parfois d'être un peu impressionniste dans l'image et en même temps d'avoir une précision documentaire sur certaines choses, notamment sur le métier de sage-femme de Lydia. Et donc, voilà, donc je pense que ce qui a vraiment guidé toute la mise en scène, c'était cette volonté de faire le pont entre romanesque et documentaire et réel, et que en fait, du coup, les décisions se prenaient par ce biais-là et aussi par un biais de. On avait une équipe très légère, on avait des petits moyens, etc. Donc il fallait trouver comment fabriquer avec ces contraintes qui sont devenues, à mon avis, des forces, en fait.
C'est vrai que ça commence documentaire, il y a même une scène d'accouchement, et puis c'est vrai que ça bascule progressivement dans le thriller, quasiment, parce que c'est l'histoire comment une femme ordinaire, sérieuse, équilibrée, va basculer dans la criminalité, en tout cas dans quelque chose de à la limite de presque irrationnel, quoi, complètement fou. Ça m'a un peu fait penser à certains films de Truffaut. Je pense que c'est le genre d'histoire qui s'intéressait aux femmes un peu criminelles, enfin en tout cas dans les marges, ou qui basculent dans quelque chose d'interdit. C'est un film assez nocturne aussi. Il y a la nuit qui joue un rôle assez important et ça participe à ce côté très cinématographique aussi. Donc vous avez parlé de la photo. C'est vrai que la photo a une sensualité, un grain, enfin, qui est assez remarquable. Alors, le casting est formidable aussi. Les trois acteurs, Afzia Herzi, Nina Meurice, Alexis Mananti, sont très bien parce qu'ils sont dans des registres aussi assez inhabituels. Enfin, on les a rarement vus comme ça. Comment vous avez créé ces deux couples, en fait, ces deux couples d'amis, femmes, et puis ce couple d'amants réunis de manière étrange
Je suis d'abord partie du personnage de Lydia, évidemment. On a d'abord cherché à poser un visage sur Lydia parce que j'avais vraiment écrit sans aucun visage en tête. Et en fait, dès qu'Afsia s'est imposée comme le meilleur choix et le choix extraordinaire pour le film, parce que je pense qu'elle a énormément apporté au film, justement, j'ai effectivement cherché à composer ces deux couples. Et c'est vrai que, pour le coup, Nina Meurice et Alexis Mananti étaient très différents des rôles tels que je les avais écrits. Mais chacun à leur façon, ils apportaient un déplacement qui était très intéressant. Alexis, en fait, c'est vrai que je ne l'avais jamais vu dans ce genre de rôle. Sur le papier, je ne savais pas du tout ce que ça donnerait. En fait, je l'ai vu en essai et tout d'un coup, il a donné une vérité au personnage qui est très belle. Et Nina, au contraire, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est qu'elle a un jeu d'une nature très, très différente de celui d'Afsia. Elle est beaucoup plus, presque beaucoup plus expressive, ou elle est très spontanée, elle est très joyeuse comme ça. Et je trouvais ça très intéressant de mettre face à face deux actrices qui viennent presque d'une école de jeu vraiment assez différente, entre une sorte d'expressionnisme et Afsia qui va proposer quelque chose de, enfin, en tout cas dans ce film, beaucoup plus rentré. Ça s'est fait comme ça, mais en fait, à chaque fois, il y a quand même eu vraiment une sorte d'évidence à la rencontre.
Et puis vos deux héros, enfin en tout cas Lydia et Milo, on peut dire que ce sont d'une certaine manière deux déracinés, assez solitaires, d'autant plus que lui vient d'Europe de l'Est. Je ne sais pas s'il est serbe ou polonais,
serbe,
ce qui me semblait. Et elles ont d'origine nord-africaine. Ça apporte quelque chose de spécifique peut-être, non, à ces deux personnages?
Il y a l'idée d'un déracinement. Chez Lydia, il y a vraiment cette idée de quelqu'un qui n'a pas de famille et qui à un moment va essayer de se constituer une famille d'une façon particulière. Et chez Milo, il y a aussi cette idée de déracinement. Et en fait, pour moi, c'était aussi très important que ce soit un film sur la solitude et sur des personnages comme ça, trois personnages qui, à un moment de leur vie, sont face à une assez grande solitude. Nina, de façon très différente, parce qu'elle est, pour le coup, très ancrée, mais elle est face à la solitude du postpartum au moment où elle donne naissance à cet enfant. Et les deux autres, une solitude aussi bien d'origine, mais aussi sociale, du fait de leur métier, qui, effectivement, c'est des gens qui travaillent la nuit, beaucoup, donc qui sont comme ça, en espèce de et j'aimais l'idée de ces solitudes qui se rencontrent à un moment et qui se côtoient, quoi.
Parce qu'on a oublié de dire, lui, il est chauffeur de bus.
Oui, il est chauffeur de bus.
Ben, merci beaucoup, Iris.
Merci à vous.
Je voulais savoir si dans votre cinéphilie ou votre formation, votre désir de cinéaste, il y avait un film ou un ou une cinéaste qui avait particulièrement compté, qui vous a peut-être nourri ou inspiré?
Aujourd'hui, je dirais, j'adore le cinéma de Lucrezia Martel, par exemple, mais c'est plus des cinéastes comme ça que j'admire, dont je regarde tous les films.
Kieslowski et Hitchcock, c'est très cohérent.
Voilà,
par rapport au
très bien, c'est intégré.
Merci.
Merci beaucoup à vous.